Eh bien, chers amis, je vous propose de lire le psaume 10. Le psaume 10, qui aborde des thèmes sur lesquels nous allons revenir. Pourquoi, Éternel, es-tu si loin ? Pourquoi te caches-tu au jour de la détresse ? Le méchant, dans son arrogance, en vient à opprimer les malheureux. Il les prend dans ses traquenards. Le méchant tire vanité de son avidité. Le profiteur maudit et nargue l'Éternel. Le méchant, dans son arrogance, déclare « Dieu n'existe pas ». Il ne va pas chercher plus loin. C'est là le fond de sa pensée. Toujours ses procédés lui réussissent. Tes jugements sont bien trop hauts pour retenir son attention et il se débarrasse de tous ses adversaires. Il se dit, je ne risque rien, je suis à l'abri du malheur et pour toujours inébranlable. Sa bouche ne fait que maudire, ses mots sont trompeurs et violents. Sous sa langue acérée fleurissent des propos méchants et blessants. Il est posté en embuscade à proximité des hameaux et dans un endroit bien caché, il assassine l'innocent. Ses yeux épient les malheureux. Il se tapit dans sa cachette comme un lion dans sa tanière. Il s'embusque dans sa retraite pour attraper le malheureux en l'attirant dans son filet. Il s'accroupit et il se terre. Et voilà que le faible tombe, assommé, en son pouvoir. Il se dit, Dieu oubliera vite, il ne regarde pas par là. D'ailleurs, il ne voit jamais rien. Lève-toi, Éternel. Dieu intervient et n'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant se moque-t-il de toi? Et pourquoi se dit-il, Dieu ne demande pas de compte? Pourtant, toi, tu vois bien la peine et la souffrance. Tu veilles pour tout prendre en main. Le faible s'abandonne à toi. Tu viens en aide à l'orphelin. Abats la force du méchant. Demande-lui de rendre compte du mal qu'il a commis et qu'il n'en reste plus de traces. L'Éternel est roi à jamais et toutes les nations païennes disparaîtront de son pays. Éternel, tu entends les désirs des petits. Tu leur redonnes du courage et tu prêtes l'oreille pour faire droit à l'orphelin ainsi qu'à l'opprimé et pour que plus jamais personne ne sème l'effroi sur la terre. La violence a éclaté près de chez nous, sans limite, terrifiante. La violence s'est déchaînée contre la liberté à travers des dessinateurs, à travers les forces de l'ordre, mais aussi contre le peuple juif. Aujourd'hui, encore un peu plus, je suis juif. On en oublierait presque que cette violence est le lot, souvent avec la même intensité ou pire même, dans la plupart des pays du monde. Ce même jour où les terroristes semaient la mort en France, Portes Ouvertes, l'association chrétienne, révélait la liste des 50 pays où la persécution contre les chrétiens était la plus forte. La violence, eh bien, elle est le fait d'agir sur quelqu'un contre sa volonté, par la force ou par l'intimidation, et cela avec le désir de soumettre par la force brutale et avec le désir de faire souffrir. La violence peut être physique, mais elle peut être aussi morale ou spirituelle. Comment aborder ce sujet de la violence? Les réponses, je crois, peuvent être multiples. On peut l'aborder en essayant de la comprendre sous l'angle psychologique. Ou alors on peut la comprendre et la subir en baissant les bras, en étant passif. C'est Einstein, le grand physicien, qui disait « Le monde est difficile à vivre, non à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. » Ou alors, comme autre réaction, c'est la nôtre, hein, nous choisissons d'être à l'écoute de la Bible qui parle de la racine de la violence et qui apporte une réponse qui va au plus profond, le cœur humain. D'abord, voyons l'origine de la violence, comme en parle la Bible. L'auteur de cet engrenage qui conduit à la violence, c'est le diable. Cela ne déculpabilise pas l'être humain, d'accord, mais il a à lutter contre beaucoup plus rusé que lui. Satan, en réussissant à couper l'être humain de Dieu, a apporté le chaos intérieur qui a produit le chaos général. Une spécialiste des dérives sectaires hier faisait ce constat à propos des terroristes qui ont semé la violence, en disant qu'on leur propose la toute-puissance. Ils prennent la place de Dieu en semant la mort. Satan fait miroiter comme aux premiers êtres humains, « Vous serez comme Dieu », Genèse 3. Et après la rupture dans la communion entre Adam et Ève et Dieu, Genèse 3, Caïn tue son frère Abel, chapitre 4. Conséquence de cette prétention à être comme Dieu et conséquence en même temps de la rupture d'avec Dieu. Et puis ensuite, on voit que le mal gangrène la société. Genèse chapitre 6. L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus le mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que du mal. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Ce n'est pas un simple doublon qui est donné ici. La rupture d'avec Dieu engendre la rupture par rapport aux êtres humains. La Bible parle souvent du méchant. Le méchant, c'est celui qui fait le mal, qui sème la violence. Mais cette notion dans la Bible est automatiquement liée à la cassure dans la relation avec Dieu. Et ce dernier point est au départ de tous les dérèglements. L'apôtre Paul, pour montrer l'état lamentable dans lequel tous les hommes sont, reprend les affirmations de l'Ancien Testament, ce qui montre, sous-entendu, que le mal n'est pas plus répandu aujourd'hui qu'avant, vu le constat tragique que l'apôtre Paul fait et que les auteurs de ces psaumes qu'il reprend dans l'Épître aux Romains chapitre 3 font. Paul y décrit les violences dont l'être humain est capable. Il est dit, il verse le sang. Oui, mais il est capable aussi de tuer par la langue, avec le venin de la vipère. L'origine, pas un qui cherche Dieu. Ou encore, à leurs yeux, révérer Dieu n'a aucun sens. Et donc, même si certains actes de violence, à l'évidence, sont à condamner, la violence, même verbale, révèle, par ce poison mortel, ce dont on est capable et coupable. Et Dieu, parce qu'il ne peut pas cohabiter avec le péché, et d'autre part, parce qu'il ne veut pas forcer l'être humain, le laisse dans sa volonté d'indépendance, dans son désir de toute puissance et donc de violence. Voyons les conséquences de cet abandon. Le psaume 10 que nous avons lu décrit le malheur que les violents provoquent. Il assassine l'innocent, il attrape le malheureux. Le faible tombe assommé en son pouvoir. Oui, nous sommes nous aussi encore, dans un monde où celui qui répand la violence écrase le faible. Je pense au physicien nucléaire Serge Tarasenko, chrétien qui habitait à Grenoble, qui a perdu un fils tué dans le métro de Londres lors d'un attentat. Ou encore, il y a quelques années, j'avais rencontré ce pasteur dont la fille avait été tuée par un assassin. Aujourd'hui encore, des milliers de chrétiens subissent la persécution, la mort pour eux-mêmes ou pour leurs proches. Comment ne pas aspirer alors, en prenant conscience de cette réalité, au retour de Jésus, qui fera alors connaître une nouvelle vie dans le ciel, là où le péché et la violence n'existeront plus. Pour ceux qui commettent ces violences, l'auteur du psaume 36 fait cet affligeant constat. Le méchant s'obstine dans la voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Le problème, c'est que toutes les religions ont pour centre l'homme. Et la Bible dit que cette voie-là est une impasse. Par exemple, dans le livre de Jérémie, chapitre 17, voici ce que déclare l'Éternel. « Maudit soit l'homme qui compte sur des hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. » Et l'être humain s'obstine dans cette impasse. Et tous ceux qui se basent sur l'homme participent à ce déferlement de violence, parce que cette solution aggrave la maladie. Asaph, dans le psaume 73, parle de ceux qui réussissent dans leur violence et dans l'oppression. Mais il comprend, à la fin de cette prière, de cette réflexion, que leur sort sera la perdition. Soudain, pour eux, c'est la catastrophe. En un instant, ils sont perdus, ils sont détruits et l'épouvante les saisit. Qui t'abandonne, Éternel, se perdra. Ce psaume démontre les difficultés de celui qui veut vivre avec Dieu dans un monde où c'est le mal qui domine. Mais le juste sera délivré dans le ciel, tandis que le méchant, celui qui vit sans Dieu et qui provoque le mal, même s'il connaît une vie de facilité apparente sur terre, connaîtra la détresse. J'aimerais m'arrêter un peu plus sur la question de la responsabilité du chrétien vis-à-vis de la violence. La réaction qu'on entend fréquemment est d'accuser Dieu de laisser cet état de violence se développer. Mais Dieu nous montre que nous avons une responsabilité en cela. Que nous est-il demandé ? En premier lieu, d'avoir une réflexion sur nous-mêmes. Jésus parle du commandement de ne pas tuer. C'est dans le Sermon sur la montagne, chapitre 5 de l'Évangile de Matthieu, et il reprend ce commandement du Décalogue dans le livre de l'Exode, chapitre 20. Et il montre qu'il est toujours un commandement valable, mais il éclaire de manière à interpeller ses disciples. Oui, il faut juger ceux qui commettent de tels actes affreux, mais vous, vous êtes aussi condamnables, parce que vos paroles déjà portent en elles la mort. Et il dit, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui dit imbécile passera devant le tribunal, et celui qui le traite de fou est bon pour l'enfer. Pour apporter la solution à la violence, il faut donner envie de vivre autrement d'abord. Et si le chrétien ne montre pas un autre comportement, Les autres ne se poseront pas la question, tout en demeurant dans ce qui les tue et apporte la mort. Si nous réagissons de la même manière que les autres, nous contribuerons encore un peu plus à laisser la violence, plus ou moins manifeste, diriger notre société. Allons un peu plus loin. De regarder et de se nourrir d'émissions et de films où la violence est de mise, où c'est elle qui règle les problèmes, où c'est la vengeance qui règne, où c'est la violence verbale conjugale qui devient la norme. Alors ce regard que je pose sur les émissions, sur les films, oriente mon comportement. Et en tout cas, me fait cautionner un comportement destructeur. La passivité devant l'écran me rend complice d'un comportement que je condamne par ailleurs. Cette tolérance, je crois, est condamnable. Ce que Dieu nous demande, c'est de haïr la méchanceté et la violence. Par exemple, dans l'Épître aux Éphésiens, « Que toute méchanceté disparaisse du milieu de vous. » Ou aux Colossiens, l'apôtre Paul écrit « Renoncez à la méchanceté. » Il s'adresse aux chrétiens de cette église de Colosse ou de celle d'Éphèse. Ou encore ce passage dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4. « Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte. » Faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que de toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Au sujet de la vengeance, là encore le message de Jésus est clair. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste. Ou l'apôtre Pierre qui écrit dans sa première épître, « Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à elle que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. » L'apôtre Paul aux Romains va dans le même sens. « Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « C'est à moi, dit Dieu, qu'il appartient de faire justice. » David, en cela, est un modèle. En ce qu'il aurait pu tuer à plusieurs reprises celui qui lui en voulait à mort. Chaque fois, David a voulu que ce soit Dieu et non lui-même qui fasse justice. Il a refusé de prendre la place de Dieu en se vengeant lui-même. Ce qui nous est appelé à faire, en quoi sommes-nous responsables encore? De vivre la paix qui vient de Dieu. Dans ce monde qui nous pousse à la peur, nous pouvons vivre, malgré tout, dans la paix que Dieu donne. Jésus a laissé cette promesse à ses disciples. C'est ma paix que je vous donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Évangile de Jean, chapitre 14. C'est facile à dire. Peut-être, c'est facile à dire. Mais, et c'est ce qui change tout, il s'agit d'un don que le Seigneur fait et non d'un effort personnel. Et ça, ça change tout. Et puis, quelle est notre responsabilité encore? Eh bien, c'est d'apporter, quand les occasions se présentent, un témoignage de ce que nous savons être la vérité. Si nous ne témoignons pas de ce que Dieu fait, eh bien, les autres ne l'inventeront pas. En plus de parler de cette œuvre du Seigneur dans les vies, le fait de prendre position face à certaines pratiques peut faire réfléchir. Dire ce que la Bible donne comme ligne de conduite permet d'éclairer ceux qui agissent dans le mal. C'est Martin Luther King qui disait « Il ne sera pas seulement demandé compte de la cruauté des méchants, mais du silence des bien-pensants. » Ou encore cette phrase que j'avais relevée « Ce qui m'inquiète, disait quelqu'un, donc je ne sais pas l'auteur, ce n'est pas le bruit des bottes, c'est le silence des pantoufles. » Témoigner, c'est aussi parler de la violence la plus atroce, celle de la mort de Jésus. C'est vrai, il y a eu plus de 100 000 crucifixions, on estime, mais celle de Jésus a été unique dans le degré d'intensité sur le plan physique, mais surtout sur le plan moral et spirituel. Mais c'est pourtant la conséquence de cette mort qui est au centre de la solution que Dieu apporte au problème de la violence. Autrefois, écrit l'apôtre Paul aux Colossiens, chapitre 1, verset 20, vous étiez les ennemis de Dieu à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils, qui a livré à la mort son corps humain. C'est par Christ que Dieu a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Pour ne pas être esclave de la violence qui est latente en chacun, je le crois, il nous faut recevoir cette paix qui vient de Dieu. Et pour cela, il faut faire la paix avec Dieu, se réconcilier en lui demandant pardon. Oui, Christ est notre paix. C'est cette œuvre qui permet de voir des terroristes être transformés par Dieu. Des hommes violents changer de comportement quand ils se sont tournés vers Jésus-Christ. Je pense à Saïd Oujibou. Il y en a beaucoup d'autres exemples comme ça. Saïd Oujibou a grandi dans la violence. Il dit qu'il a été rejeté, qu'il a connu l'exclusion et le racisme. Et il témoigne en disant « J'ai commencé à sortir mes griffes et je devenais de plus en plus violent. Ma famille s'est liée d'amitié avec une voisine chrétienne. » Ma sœur, un an plus tard, s'est convertie. Par la suite, je me suis mise à lire la Bible. C'est l'Esprit Saint qui m'a convaincu de mon péché. J'ai compris que Dieu m'aimait d'un amour inconditionnel. Et Saïd Oujibou a connu une vraie transformation dans sa vie. Il est maintenant pasteur et il témoigne d'une manière zélée et pacifique de sa foi en Jésus-Christ. Alors face à la violence dans le monde, mais aussi à la violence en chacun, Dieu veut accomplir ce miracle de la paix. Ceux qui travaillent à la paix, écrit Jacques, sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. Seigneur, là où je suis, que je sois un instrument de ta paix.